没吃饭，你记得点主题。
Bonjour.
Bonjour Françoise Aubjoie.
Alors, pour quelle raison avez-vous eu envie de proposer au musée Cernouski, dont vous êtes le directeur, une exposition sur la culture de l'encens en Chine?
Alors, c'est en fait surtout au musée de Shanghai que j'ai proposé de faire une exposition sur la culture de l'encens en Chine, parce que cette exposition, c'est le fruit d'une collaboration, un dialogue qui a duré presque 3 ans, puisque vers l'été 2015, j'ai rencontré le directeur du musée de Shanghai. C'était à ce moment-là deux projets d'exposition avec le musée de Shanghai, et nous nous interrogions sur nos possibilités de collaboration future, et j'ai proposé de travailler sur le thème de l'encens, un thème qui était pour eux totalement neuf, comme pour nous, et qui était un thème qui avait la particularité d'être un thème complètement transversal, puisque l'encens concerne aussi bien la céramique, les bronzes, que la peinture ou la calligraphie. Et ce sont des domaines qui sont souvent traités de manière séparée par les spécialistes de l'histoire de l'art. On est expert d'un domaine. Et là, justement, il fallait croiser les perspectives et les expertises pour réaliser ce projet. Mais bien sûr, en amont, il y avait eu cet intérêt pour l'encens qui était né d'une observation au cours des 5 dernières années, quand je m'étais rendu en Chine, j'avais pu voir que de plus en plus de personnes se passionnaient pour l'encens, ce qu'il avait représenté dans la culture, en particulier dans la culture lettrée. Ces mêmes personnes se passionnaient pour les encens anciens, pour les objets de l'encens, et toutes ces pratiques étaient en pleine renaissance, quelque chose qui n'existait pas du tout il y a une 15aine d'années. Et alors j'avais été fasciné par ce phénomène de renaissance culturelle. J'avais posé beaucoup de questions là-dessus. Et le moment venu, j'ai donc proposé ce sujet au musée de Shanghai.
Alors en tout cas, vous tentez un tour de force puisque vous exposez ce qu'il y a de plus éphémère, l'odeur, en l'occurrence celle du passé.
C'est quelque chose qu'on n'espérait peut-être pas arriver à présenter au public au tout début de notre projet, puisqu'on s'était bien rendu compte qu'il y avait une forte empreinte de la culture du parfum dans toute la culture matérielle, en particulier dans les arts visuels, puisque de nombreux personnages sont représentés en train d'utiliser de l'encens. Il y a bien sûr de très nombreux brûle-parfums et tous les autres instruments qui sont liés au parfum. Mais le parfum lui-même, comment le présenter au public, et surtout le parfum du passé, puisque nous avons entrepris de présenter presque 2000 ans de l'histoire du parfum en Chine. Et à ce moment-là, nous avons élargi encore notre cercle de spécialistes pour travailler avec vraiment des hommes du parfum. Et en l'occurrence, ça a été deux personnalités très différentes et très complémentaires. D'un côté, Frédéric Aubringer, qui est chercheur au CNRS, qui travaille depuis de nombreuses années sur le parfum et l'encens en Chine. Et puis, d'un autre côté, ça a été François Demachy, hein, qui est lui créateur de parfums depuis de très nombreuses années, et qui aujourd'hui crée des parfums pour la Maison Dior. Et c'est à force de discussions que je me suis rendu compte qu'il qu'il était possible de tenter quelque chose, de tenter de reproduire, de reconstituer plus exactement, voire de réinterpréter certains parfums du passé, puisque nous possédons des recettes suffisamment complètes, suffisamment précises pour pouvoir, avec nos moyens modernes, essayer de retrouver les équilibres, retrouver les notes principales de ces parfums d'autrefois. Et comme cette documentation, elle est aussi relativement complète dans la durée, eh bien nous nous sommes dit, puisque nous sommes dans une exposition chronologique, que nous allions proposer un parfum pour chaque temps fort, pour chaque moment. Et donc nous avons ainsi proposé quatre parfums. Le premier qui correspond à la période Han Tang, et qui est un parfum dont la recette a été consignée au IVe siècle. Et puis ensuite, nous avons d'autres parfums pour les dynasties Song, puis Ming, puis Qing.
Enfin, j'ai remarqué, ou en tout cas mon nez a remarqué, une grande différence entre les premiers parfums des premières dynasties et les derniers avec la dynastie Qing.
Effectivement, comme les visiteurs du musée peuvent le constater, puisque nous avons à chaque fois détaillé et présenté chacun des ingrédients, et aussi nous avons tenu à chaque fois indiquer quelle était la fonction précise, le contexte dans lequel on utilisait ce parfum. Donc on commence avec des parfums dont la composition est relativement simple. Le premier de tous ces parfums ne comporte que 6 composants et il est destiné à parfumer les vêtements. Hein, c'est une matière à brûler, il faut le préciser, même si le mot de l'encens le suppose. Et donc c'était comme le dit son auteur, Gueron, un célèbre alchimiste, c'est une recette à garder sous le coude. C'est donc quelque chose vraiment qui s'inscrit dans la vie quotidienne et qui permet de parfumer ses vêtements. Et petit à petit, sous les Song, on a une recette plus compliquée, une recette d'encens moulé cette fois. Et puis, dans les salles suivantes, nous avons encore une fois des usages qui évoluent, en particulier sous les Qing. Cette fois, c'est une poudre. Et une poudre qui a une fonction cosmétique, elle sert à parfumer les cheveux. Et on se rend compte que autant les notes boisées dominent dans les parfums les plus anciens, avec le bois d'aigle, le bois d'aloès, qui est très très présent. Et puis, vers la fin du parcours, on a des notes qui sont plus florales et qui sont donc qui marquent cette différence, avec bien sûr sous les Ming quelque chose aussi d'assez musqué, là avec une matière vraiment qui est liée à la Chine, puisque les chevrotins porte-musc sont originaires de ce territoire. Et effectivement, qu'on soit un amateur ou qu'on soit un parfait néophyte, je crois qu'on sent bien cette évolution du boisé vers le floral dans l'évolution de l'histoire.
Et du coup, le floral apparaît plus contemporain. Alors, faire l'histoire de l'encens, c'est aussi faire l'histoire du taoïsme, du bouddhisme et finalement de 23 siècles d'histoire en Chine ancienne.
Effectivement, c'est aussi l'un des défis de cette exposition. Évidemment, nous parlons du parfum, nous parlons de ces objets, et puis nous élargissons quel contexte. Nous sommes dans un contexte parfois rituel, parfois lettré, souvent tout simplement domestique, puisque c'est le parfum lié au bien-être, lié au corps, lié à la séduction. Et nous avons donc voulu pour chaque époque insister sur un contexte particulier. Effectivement, au début du parcours, il nous semblait important de parler des rites et de la religion, et avec des objets aussi emblématiques que le Bochanlu, le célèbre brûle-parfum en forme de montagne de la dynastie des Han, qui est souvent associé à des connotations taoïstes, une sorte de représentation du paradis des immortels en miniature. Et puis ensuite, l'arrivée du bouddhisme est quelque chose d'extrêmement important, puisque le bouddhisme amène un mode de consommation de l'encens, une manière de le préparer, et cet apport venu de la culture indienne, il va transformer de manière presque définitive le rapport des Chinois à l'encens.
Alors, quand vous parlez d'influence indienne, j'ai eu l'impression qu'il n'y avait pas de bâton d'encens, ou alors juste à la fin, vers le 19e, en fait, cet encens, il se présentait plutôt en poudre. Enfin, comment ça marche?
Alors, les influences indiennes, elles sont sensibles à partir du moment où on utilise, par exemple, de la poudre de santal qui est grillée puis amalgamée avec un liant. Parfois, c'est du miel, parfois, c'est un autre type de liant. Et effectivement, il y a quelque chose de très important pour la compréhension de manière très pratique de l'encens, c'est que tout d'abord nous avons de l'encens qui est sous forme de poudre ou bien alors sous forme de pain, de granules, et puis ensuite seulement on va avoir apparaître des formes qui sont des formes plus sophistiquées avec les fameux encens moulés qui peuvent avoir la forme par exemple d'un caractère chinois et les très célèbres bâtonnets d'encens. Aujourd'hui quand on pense à l'encens en Asie, le bâtonnet s'impose, c'est ce que l'on peut voir quand on se rend dans un temple en Asie et cette forme du bâtonnet elle est ancienne. Elle est apparue sous les Song, elle est à l'époque très minoritaire, on utilise surtout à cette époque-là des granules, et puis elle va se développer largement dès l'époque des Yuan, et puis ensuite elle va connaître un succès de plus en plus grandissant, et on se rend compte que dans la dernière dynastie, l'une des principales évolutions dans la forme des brûle-parfums est liée au fait que désormais le bâtonnet s'est imposé comme forme principale pour les encens.
Et du coup ça change l'objet. Alors il y a un art de l'encens comme il y a un art du thé finalement en Chine.
C'est sans doute quelque chose d'aussi important dans la culture chinoise que peut l'être le thé. Et on s'en rend compte, je crois, surtout quand on se penche sur l'importance de l'encens et du parfum pour les lettrés. Là, je crois que le moment clé, c'est la dynastie Song, au moment où les premiers traités exclusivement consacrés au parfum sont écrits. Et ils nous sont d'ailleurs parvenus. On voit qu'à ce moment-là, il y a tout le développement des sciences botaniques, zoologiques, aussi la géographie, permet de bien connaître tous les composants du parfum et aussi de consigner la manière dont ces composants sont liés les uns aux autres. À côté de ça, on a un développement technologique avec une connaissance des procédés de distillation, des procédés d'enfleurage, qui sont utilisés non pas comme ce sera le cas en Occident pour réaliser des parfums sous forme liquide, mais qui sont utilisés pour enrichir l'arôme des encens les plus appréciés, en particulier l'arôme du bois d'aigle. Et effectivement, on se rend compte que les lettrés donc écrivent sur les parfums, cherchent à mieux connaître les composants du parfum, et ils le font aussi parce que ces encens accompagnent les activités qui sont les activités lettrées par excellence, comme par exemple la lecture, comme par exemple la méditation. Donc ce brûle-parfum, il a un vrai rôle à l'intérieur du cabinet d'études. On s'en rend compte à travers les très nombreux poèmes de cette époque où, effectivement, on voit que l'encens est partie prenante de toutes ces activités. Et ça n'est pas étonnant de voir qu'on retrouve ça dans les fameuses peintures qui représentent les lettrés et leurs activités. Toujours le brûle-parfum est là, jamais loin. Il peut être discrètement posé sur une tablette à proximité des lettrés, mais il peut être aussi mis en évidence et on voit que le peintre s'est parfois vraiment ingénié à représenter délicatement les volutes de parfum.
Alors si les lettrés étaient des grands utilisateurs de parfums, qui en étaient les créateurs ?
Justement, c'est quelque chose de très frappant. On imagine ces lettrés souvent comme presque de purs intellectuels et on peut être surpris de voir que eux-mêmes étaient des créateurs de parfums. Et souvent, dans leurs écrits, il n'est pas seulement question du parfum qui accompagne leurs autres activités, mais il est question de comment créer des parfums nouveaux, comment associer tous ces composants. Et on se rend compte que des personnalités de premier plan, des hommes d'État, des grands poètes, des grands calligraphes, étaient aussi des créateurs de parfums. Et le plus parfait exemple de cela, c'est peut-être l'empereur Song Gaozong, qui était le fondateur de la dynastie des Song du Sud et qui était lui-même donc quelqu'un qui s'intéressait à la création du parfum et qui a donné leur nom à plusieurs parfums très célèbres.
Les Song, quelle année à peu près ?
Alors, nous sommes toujours donc sous les Song entre le 10e et le 13e siècle.
Est-ce qu'on peut dire qu'un alchimiste ou un médecin est un lettré ?
En l'occurrence, sous les Song, cette acception est assez précise. Il s'agit d'une élite de personnes qui ont passé et réussi les examens mandarinaux, c'est-à-dire les examens qui leur permettent d'accéder à la fonction publique. Donc ce sont des hommes du texte, puisqu'ils possèdent parfaitement les textes classiques pour pouvoir réussir ces examens qui sont surtout à dominante littéraire. Et surtout, ce sont des hommes du texte à un moment où l'imprimerie se développe, évidemment bien plus tôt qu'en Occident. Alors effectivement, voilà la définition un petit peu restrictive de ce que sont les lettrés chinois, mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui était un médecin ou un alchimiste était une personne ignorante. C'était quelqu'un qui avait certainement de grandes connaissances, mais qui n'avait pas forcément ce rôle au sein de l'administration de l'État impérial.
Oui, je vous posais cette question parce qu'au cours de l'exposition, il est dit qu'il y a un alchimiste médecin qui a créé un parfum. Alors, on parle indifféremment de parfum et d'encens. Il n'y a pas de différence réelle ?
C'est toute la difficulté de penser cette réalité du parfum en Chine en français. Puisque, surtout dans notre pratique contemporaine, le parfum s'impose sous la forme liquide. C'est comme ça qu'on y pense de manière spontanée. Donc, c'est un liquide dans un flacon qu'on vaporise. Et même si c'est vrai qu'il existe des parfums d'ambiance, même s'il est vrai que l'encens existe toujours dans certaines pratiques religieuses en France au XXIe siècle, mais voilà, spontanément on pense au parfum sous une forme liquide. Donc ce parfum qu'on désigne principalement sous le terme xian en chinois, eh bien lui il a une acception beaucoup plus large. Quand on dit xian, peut-être qu'un chinois pense lui en premier à l'encens, et qu'il faut au contraire, lorsqu'on veut parler de parfum sous forme liquide, et il faut spécifier en chinois, dire xian shui, donc un parfum liquide. Et donc là, ici, il y a une inversion de perspective qui est très importante. C'est pour ça que nous avons voulu, dès le titre de l'exposition, bien marquer les choses. Nous parlons du parfum de Chine, mais il va être question principalement de la culture de l'encens, puisque c'est le parfum à brûler qui, finalement, du point de vue historique, est très largement dominant dans toutes les pratiques culturelles. Et c'est pour ça que nous sommes finalement revenus à l'étymologie de l'encens, une matière à brûler, même si, et nous avons écarté la désignation plus restrictive de l'encens, qui est l'oliban, qu'on appelle Jouxian en chinois, et qui donc sont ces petites perles de l'encens qui proviennent des arbres de la famille des Boswellia et qui sont originaires du monde arabe. Donc ici, nous, ce sont tous ces encens, le plus souvent des parfums, c'est-à-dire des compositions qui nous ont intéressés pour cette exposition.
Donc indifféremment, on utilisait la même matière en quelque sorte à la cour et dans les temples. Si on pouvait aller du côté des temples et parler un peu des pratiques rituelles de l'encens.
Alors, juste pour revenir sur cette ce que vous avez dit à l'instant, c'est vrai que on désignait peut-être sous le même terme d'encens ce qui était utilisé à la cour ou dans les temples, mais dans la réalité, il s'agissait de parfums très différents. On se rend compte que certaines matières exotiques, rares, étaient des matières extrêmement précieuses. C'est le cas du bois d'aloès ou bois d'aigle, c'est le cas de l'ambre gris. Et ce sont ces matières justement rares et précieuses qui étaient très largement utilisées dans ces parfums de cour. On s'en rend compte à travers tout le registre un petit peu allusif de la poésie qui cite le plus souvent ces matières. Mais ce qu'on utilisait dans les temples, et là c'est aussi la pratique des temples est très intéressante parce qu'elle témoigne d'une popularisation, d'une démocratisation de l'usage de l'encens. De la même manière que certaines peintures, comme le très célèbre rouleau de l'époque des Song, Qingming Shangretu, hein, qui décrit un jour de fête au bord de la rivière et qui est en fait une description extrêmement vivante de la capitale des Song, on voit des petites échoppes et on voit même les réclames qui sont suspendues, les enseignes des échoppes avec des échoppes qui vendent de l'encens de qualité, etc. etc. Avec. Et ici, on se rend compte effectivement que dès les Song, les usages de l'encens sont très très nombreux et dans la vie économique cela représentait aussi du coup quelque chose d'un poids certain puisque l'État impérial avait eu la très bonne idée de mettre au point une taxe sur l'usage des parfums et cette taxe devait être quand même très très importante puisque elle permettait de subvenir à en partie aux frais de l'armée. Donc on voit ici qu'il y avait un usage démocratisé de l'encens dès les époques anciennes et ces usages, pour revenir à la question des usages rituels, il faut se rendre compte que contrairement peut-être à la vie moderne où finalement ces rites se sont peut-être davantage réfugiés à l'intérieur de l'enceinte et des temples, eh bien, on avait un mode de vie qui était peut-être davantage ritualisé et que, évidemment, au sein de la maison, on brûlait aussi de l'encens pour ses ancêtres. On pouvait avoir d'ailleurs, de manière non exclusive, un petit autel bouddhiste ou un petit autel taoïste. Et tout cela faisait que la consommation d'encens, elle était générale. Alors si on ajoute en plus à cela des usages très très quotidiens, comme par exemple l'utilisation de l'encens pour mesurer le temps, on se rend compte qu'effectivement l'encens était omniprésent dans la Chine ancienne.
Mesurer le temps, c'est-à-dire ?
Alors, on a effectivement utilisé cette propriété de l'encens qui est de se consumer de manière régulière, de manière égale, pour mesurer le temps. Alors on en a des témoignages, par exemple en contexte rural, on voyait que pour l'utilisation d'un puits, telle ou telle famille de paysans avait le droit de tirer de l'eau pendant le temps nécessaire pour brûler un bâtonnet d'encens. On en a d'autres exemples qui sont dans le monde de la marine pour mesurer l'éveil. Et on savait aussi que des encens moulés, et qui donc pouvaient avoir parfois un dessin complexe, pouvaient brûler pendant des durées fort longues. Donc par exemple, on savait que tel encens moulé permettait, lorsqu'on l'utilisait dans un temple, eh bien, d'honorer le Bouddha pendant 6 heures. Donc c'était quelque chose de bien connu et de très utilisé dans différents registres de la vie.
Donc l'encens comme sablier, pourquoi pas. Alors, on se rend compte aussi que l'essor du parfum au temps des Ming a participé aussi à celui de la porcelaine.
Effectivement, on voit dans l'exposition des brûles-parfums peut-être métalliques plus nombreux dans la première partie du parcours, sous les rannes et les tangues, bien que les formes céramiques sont présentes sur la totalité de la période. Et sous les Ming, on a une période qui est formidable, puisque on a le parfum est une source de création qui gagne tous les domaines, à la fois toutes les matières. On a d'un côté les fameux brûle-parfums métalliques qui sont les brûle-parfums Xuan 2 avec leur beau reflet cuivré, un peu chaud. Et puis on a de belles créations, évidemment à Ting de Zhen, avec des brûle-parfums en bleu et blanc qu'on retrouve en bonne place, bien sûr, dans notre exposition sur les Ming. Et aussi, il y a une autre curiosité parmi ces créations de Ting de Zhen. Il y a des créations qui tranchent complètement du point de vue esthétique avec ces brûle-parfums en bleu et blanc. Ce sont des créations, au contraire, avec un décor de brocart où domine le rouge, où domine l'or. Et une pièce en particulier a certainement été produite pour le marché japonais, et elle a été en tout cas utilisée pendant longtemps dans ce pays, puisque elle est agrémentée d'un couvercle en orfèvrerie qui est le travail d'un artisan japonais. Donc on voit ici que à travers l'encens, on avait aussi des pratiques, une circulation des pratiques à l'échelle de l'extrême Asie.
Alors, il y a quelques chefs-d'œuvre parmi les pièces exposées. Est-ce qu'on pourrait en citer quelques-uns?
Parmi les grands chefs-d'œuvre qui sont venus de Shanghai, il faut citer, je pense, tout d'abord, la peinture de Cheng Hongshou, qui est aussi l'affiche de notre exposition. Elle, c'est une œuvre extrêmement poétique. D'une part, nous avons une scène qui est centrée autour de la représentation d'une jeune femme. Elle a le visage levé en direction d'un perroquet. Et donc on imagine, là, ce n'est pas un imaginaire olfactif, c'est plutôt un imaginaire qui relève de l'ouïe, que peut-être le perroquet est en train de babiller, et elle est attirée par lui. Au premier plan, on a une scène aussi très animée, puisqu'on a un jeune garçon qui est en train de courir après un papillon. Mais le vrai sujet, qui est un peu caché, il est caché sous les manches de cette jeune femme, puisqu'elle est en train de se parfumer. Et comment elle le fait? Elle le fait au moyen d'un brûle-parfum. Et ce brûle-parfum a une forme très particulière. C'est un brûle-parfum en forme de canard, sur lequel on a placé ce qu'on appelle une cage à fumigation, ce qui permet donc de disposer des vêtements, une couverture sur le brûle-parfum sans le brûler, sans risquer de le brûler. Donc on a ici quelque chose qui est à la fois extrêmement concret, qui nous permet de comprendre comment des brûle-parfums pouvaient permettre de se parfumer, de parfumer ses vêtements dans la Chine ancienne. Et en même temps, on a quelque chose d'extrêmement poétique. Et en général, face à cette peinture, les commentateurs chinois, et peut-être surtout ceux de l'ancien temps, ne pouvaient s'empêcher de penser à certains vers célèbres, notamment les vers de Bai Tuyi qui décrivait les belles courtisanes qui attendaient l'empereur penchées sur leur brûle-parfum jusqu'à l'aube.
Ah oui, vu comme ça, effectivement. Et pour se parfumer, on utilisait aussi une bourse à parfum. Il y a de beaux exemples dans votre exposition.
C'est vrai que souvent, le parfum était davantage déposé sur le vêtement que sur le corps. Et donc, on en a un premier exemple avec la manière donc d'enfumer les vêtements. Et un deuxième exemple aussi très important pour toute la durée qui nous occupe pendant toute la Chine impériale, c'est justement l'utilisation de sachets à parfum, de bourses à parfum. Donc, des objets qu'on pouvait suspendre à sa ceinture ou bien éventuellement accrocher autour de son cou, et dans lesquels on pouvait mettre à la fois, on pouvait mettre directement des herbes odorantes, mais on pouvait mettre aussi des parfums composés, des granules d'encens, et qui permettaient donc tout simplement de se parfumer, ou en tout cas d'être dans une atmosphère parfumée.
Eh bien, Eric Lefebvre, merci pour cet éclairage. Bruit de Chine sur le 106.6 de la bande FM jusqu'à 13h. Nous écoutions Éric Lefebvre à propos de l'exposition Parfums de Chine, dont il est le commissaire, et que l'on peut voir jusqu'au 26 août au musée Cernouski à Paris, au 7 rue Velasquez.